diront. 2018, l'année où des choses changeront grâce à vous. Merci de votre attention et nous tenons à remercier tous les pays participants.
La Russie, le Nigeria, la Chine, le Danemark, les îles Fidji. L'Inde, les États-Unis, le Laos, l'Espagne, l'Afrique du Sud, le Brésil. L'Indonésie. La Colombie, le Canada, le Mexique, l'Éthiopie et l'Australie.
Bonjour à toutes et à tous. Il aura fallu seulement 2 journées à des élèves de différents lycées français pour se muer en représentants fictifs de différents pays dans le cadre de la simulation de la COP21, la COPVAL 2018. Sur le site de la base de l'ONU à Valence, où, au lycée français de Valence, nos équipes ont suivi les élèves de seconde débattre, négocier ou proposer des résolutions autour des thématiques du développement durable. Ils y ont rencontré d'autres lycéens de l'ensemble de la péninsule ibérique et de Rome. Voici notre reportage sur les coulisses et les moments forts de cet événement.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'est la COPVAL ?
Alors la COPVAL, c'est un projet qui a maintenant 3 ans. Une action pédagogique pilote de l'AEFE qui consiste en une simulation de négociation sur le climat.
Hervé Depaty, professeur au lycée français de Valence et un des organisateurs de la COPVAL 2018.
Donc en gros, les lycées de la péninsule ibérique et cette année, pour la première fois, le lycée français de Rome nous envoient des groupes de 4 élèves qui vont représenter un pays qui a été tiré au sort. Et à l'intérieur de ce groupe de 4 élèves, il y a donc 4 commissaires qui vont représenter des thèmes qui concernent le développement durable. Ces élèves donc vont se rencontrer en fonction de ces thèmes et chaque pays, chaque commissaire de chaque pays va essayer de créer une résolution pour changer quelque chose dans le thème de l'alimentation ou dans le thème du développement durable ou de la ville durable. Et va essayer ensuite, à la faveur de négociations, d'avoir le soutien des autres commissaires. Et ensuite, on fonctionne sur un vote, c'est-à-dire que si plus de la moitié du reste des commissaires est d'accord avec cette résolution, bah, la résolution est adoptée et on l'inscrit sur la charte de la COPVAL.
De quelle ville tu viens ?
Rome.
Et quel pays tu présentes ?
Je présente l'Espagne.
Quelle ville tu viens ?
De Barcelone.
Et tu présentes quel pays ?
La Chine.
De quel pays tu viens ?
Rome.
Et tu présentes quel pays ?
Afrique du Sud.
De quelle ville tu viens ?
Barcelone.
Et quel pays tu présentes ?
Nigeria.
Tu viens de quelle ville ?
De Valence.
Et tu représentes quel pays ?
Indonésie.
La première étape durant l'année scolaire pour les élèves de seconde a été de créer une vidéo qui présente les pays pour lesquels ils sont devenus les représentants fictifs.
Le Danemark et le développement durable.
Le Danemark fait partie de l'Union européenne. Il est constitué d'une péninsule et de 443 îles, dont le Groenland et les îles Féroé. Il possède un climat maritime et tempéré, accompagné de beaucoup de pluie.
Le Danemark est une monarchie constitutionnelle où le pouvoir exécutif est géré par un Premier ministre et un Parlement. Celui-ci est basé sur le multipartisme, les partis étant représentés proportionnellement.
Le Danemark est en haut du classement des pays
où les personnes produit de diverses énergies primaires, du pétrole et du charbon, et consomme de plus beaucoup d'énergie primaire, gaz naturel et enfin de pétrole.
La Russie joue un rôle fondamental dans la conservation de la biodiversité. Ce rôle est principalement joué par les sapovetniks et par les parcs nationaux. Tout cela s'est mis en place car la Russie compte 56 espèces végétales menacées et plus de 38 espèces animales en danger d'extinction.
Le Bangladesh est un des pays les plus densément peuplés au monde. Il compte 160 millions d'habitants. C'est aussi un des plus grands états du monde. 300 cours d'eau y définissent ce style de vie. Mais l'eau est devenue une menace. Le Bangladesh est pris en étau entre les fontes des glaciers de l'Himalaya et la remontée de l'océan Indien. Dans un pays où 85% du territoire est inondable, au rythme actuel du réchauffement climatique, il se pourrait que 17% de ces territoires se retrouvent sous l'eau d'ici 2050. Entre 20 et 40 millions de personnes se retrouveraient sans terre sous leurs pieds. Ce sont des réfugiés climatiques annoncés.
Et dévasté les îles du Pacifique. Depuis une vingtaine d'années, les îles Fidji se sont investies plus que jamais dans la lutte contre le dérèglement climatique. Coprésidence au sommet des océans, implication aux Nations Unies et organisation de la COP23. Notre petite île volcanique a de grandes idées, mais elle a besoin de vous pour les réaliser.
Mais elle est vraiment appliquée dans le pays ?
C'est une simulation, donc il s'agit d'élèves de seconde. Donc non, on fait comme si cette résolution pouvait être appliquée. Mais elle est censée être validée par une série d'experts, qui sont en réalité des professeurs d'histoire-géographie et de SES, qui aident un petit peu les élèves en leur disant que, par exemple, le financement serait difficile ou que ça serait assez peu réalisable parce que telle condition fait que... Donc on essaie de rester le plus possible dans une sorte de réalisme pour éviter que les élèves nous proposent simplement qu'on fasse un impôt de 100% des revenus pour fabriquer des panneaux solaires. Donc les professeurs d'histoire-géographie et de SES sont quand même là pour recadrer un petit peu. Après, on sait très bien que ce sont des élèves de seconde, donc ce ne sont pas non plus des représentants politiques des pays du monde. Donc voilà, on essaie de leur montrer un petit peu comment ça marche et de faire, voilà, de leur montrer que c'est de la négociation, qu'il y a des lignes rouges que chaque pays refuse de franchir et qu'après, voilà, il faut s'arranger, il faut faire en sorte que certains pays nous soutiennent, que certains pays n'essayent pas de nous désarmer. Et puis voilà, donc souvent les négociations, donc ça dure assez longtemps, ça dure 2 heures plus la phase de repas qui sert aussi à négocier. Voilà, ça montre aux élèves que l'ONU, enfin les négociations de l'ONU, ça fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire c'est des conversations dans le couloir, c'est aussi des conversations entre deux chefs d'État simplement qui vont ensuite essayer de convaincre les autres de voter pour eux, etc.
Les représentations des résolutions et des débats ont donc eu lieu dès la première journée sur la base de l'ONU à Valence en Espagne.
La mise en place d'un recyclage de ce plastique s'avère tout à fait urgent.
Des hôtels qui arrivent et ont un accueil parfait avec accès à l'eau chaude, accès à l'électricité et tout ça, et la population qui est encore très pauvre et qui vit dans des endroits reculés sans électricité. Et d'un point de vue environnemental, ça augmente la production d'énergie sur l'île, donc la pollution, et l'import qui est fait par cargo, et ça pollue énormément tout ce qui est mer, il y a les risques de marée noire.
Du coup, c'est exactement comme ce que font les adultes, les représentants des pays ?
On a essayé de faire en sorte, très modestement, mais on a essayé de montrer aux élèves comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que de leur expliquer que déjà ça ne tombait pas du ciel, qu'il n'y avait pas un pays qui décidait d'un coup comme ça de proposer un impôt pour fabriquer des panneaux solaires, peut-être dans son pays, mais en tout cas pas à l'échelle mondiale. Et que si on veut trouver un financement pour créer un projet ambitieux à l'échelle, peut-être pas mondiale, mais en tout cas à l'échelle d'une région, il faut avoir le soutien de tous les pays de cette région ou du maximum de pays de cette région. Et ce soutien, il faut l'arracher parfois grâce aux mots. C'est-à-dire que si vous apprenez à parler français dans vos lycées, c'est aussi parce qu'on vous apprend l'argumentation et que parfois il faut aller convaincre une personne qui n'est pas d'accord avec vous, qui vaudrait mieux qu'il vote pour vous, quitte à ce qu'ensuite vous lui fassiez quelques petites concessions. C'est-à-dire que la phase de négociation, elle n'est pas tant un pays propose une résolution et fait en sorte que tout le monde soit d'accord, un pays présente une résolution et fait preuve de souplesse pour concéder des points et faire en sorte peut-être de fusionner un point avec un autre, de façon à ce qu'un pays qui n'était pas d'accord au début finisse par être d'accord. sachant que l'échec, c'est l'isolement. C'est-à-dire que si un pays se retrouve absolument tout seul parce qu'il n'aura pas voulu faire aucune concession, bon, voilà, il ne participera pas au vote, mais d'une certaine façon, il aura aussi manqué sa négociation.
Lors de ces différentes journées de travail, les lycéens ont pu aussi participer à un jeu construit autour de la ville durable ainsi qu'à des conférences.
Bonjour, est-ce que en quelques mots vous pourriez vous présenter ?
Oui, bonjour. Donc Philippe Outrequin, je suis économiste de formation. J'ai travaillé beaucoup sur l'urbanisme, l'aménagement durable, la ville durable et sur l'énergie. J'ai fait une thèse doctorat sur l'énergie il y a assez longtemps. Et donc j'étais consultant depuis une vingtaine d'années après avoir été au CNRS, qui est un centre de recherche en France. Voilà.
Et en quoi consiste votre travail ?
Alors aujourd'hui, le travail est plutôt trois facettes, trois aspects. Il y a un aspect consultant et on travaille beaucoup sur le coût global, c'est-à-dire comment, quels sont les impacts d'un projet d'investissement, d'équipement sur, sur l'avenir, sur l'énergie, sur les coûts, sur l'entretien, sur toutes les externalités que peut revêtir un projet d'investissement. Hein. Ça, c'est un peu l'aspect consultant pour des collectivités locales ou pour des bailleurs sociaux, donc les logements HLM. Et puis, un deuxième aspect, c'est d'écrire des livres. On a déjà une dizaine de livres qu'on a écrits ensemble avec Catherine Charlevalieu sur l'urbanisme, sur l'aménagement, sur les écoquartiers. Et puis, on fait également de la formation. Voilà.
Et de quoi vous nous parliez pendant cette conférence ?
Alors là, on m'a demandé d'essayer de mettre l'accent sur les risques, les problèmes liés au financement des investissements. Comment financer ? Parce que c'est évident que les demandes, les besoins de financement sont énormes pour le changement climatique ou contre le changement climatique, pour la biodiversité, pour la ville durable. Ces besoins de financement sont énormes, mais les capacités sont plus limitées et les envies des gens qui ont de l'argent, les investisseurs, elles sont également liées à des critères de choix, de rentabilité, qui fait que les besoins sont beaucoup plus importants que l'offre aujourd'hui de financement pour des projets qui sont pour la population, pour les générations futures, mais qui ne sont pas forcément rentables au sens monétaire pour les entreprises ou qui correspondent à des capacités de financement des États. Voilà, donc j'ai essayé de voir un petit peu la limite aujourd'hui des possibilités de financement, des investissements qui sont plutôt pour le service rendu à la population. Et par rapport à ça, les difficultés de trouver ce financement.
Alors, je m'appelle Anne Gigou, je suis maître de conférence en géographie et aménagement de l'espace à l'Université de Bourgogne.
D'accord. Et de quoi va parler votre conférence ?
Je vais faire une conférence sur la ville durable. En fait, dans ces différents aspects et puis dans plusieurs lieux du monde, mais en partant quand même de l'origine qui est plutôt européenne. Et puis comme je suis spécialiste plutôt de la France, je vais davantage parler de la France.
Donc vous allez nous présenter en quoi consiste une ville durable ?
C'est ça.
Mais en concret ou en théorie, niveau économique,
Les deux. Les deux, bon, pas forcément du côté économique. Moi, je suis plutôt intéressée par les rapports entre les sociétés et leur environnement. Voilà, donc il y aura peut-être un petit peu moins cette dimension économique. Elle sera peut-être un petit peu moins présente.
Donc, sur les sociétés et leur environnement, donc si elles polluent et ce genre de choses ?
C'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce qu'elles font pour moins polluer ? Ouais, c'est qu'est-ce qu'elles font pour moins polluer, voire pour dépolluer, même si je vais pas parler de ces techniques-là en particulier, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre une ville durable.
La COPVAL était encadrée par des professeurs, mais aussi des élèves de première du lycée français de Valence, eux-mêmes anciens participants de l'édition précédente.
Bonjour, vous êtes animatrice. Quel est votre rôle dans la COPVAL ?
Alors, dans la COPVAL, on doit voir que tout le monde est bien, il y a une bonne ambiance et on doit voir que tout ça passe bien et on doit passer les papiers. Et donc vous êtes tous dans des salles. Nous, on va être dans toutes les salles en train de voir que tout ça passe bien. Et si quelqu'un a besoin de quelque chose, on est là pour lui donner ce qu'il veut.
D'accord. En résumé, on doit s'assurer que tout se passe bien.
Enfin, les résolutions ont été présentées en public à la fin de la dernière journée.
Et en tant que porte-parole des pays membres, nous proposons la résolution suivante. La création de l'AGIT, Agence internationale pour la transition énergétique. AGIT comme agir, ce dont on a besoin en ce moment. Cette organisation a pour but d'aider les pays les moins avancés en développant un modèle énergétique durable basé sur les énergies renouvelables et donc réduire l'utilisation d'énergies fossiles non renouvelables et les impacts environnementaux que celles-là impliquent.
Un reportage du lycée français de Barcelone. Prise de son et interview, Lilou Blanchard. Montage, Vincent Hainaut. Merci aux organisateurs de la COP Val 2018 et à tous les participants.